Métaphysique, Père Philippe Saint-Joseph, le 12 novembre 84.
Nous allons continuer rapidement de voir comment l'intelligence humaine, se posant la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», découvre progressivement par un cheminement d'abord négatif pour déblayer le terrain, puis par une saisie inductive, elle saisit ce qui est radical dans l'être, ce qui est la détermination ultime au-delà de toutes les déterminations, parce qu'elle est la détermination ultime. Et quel est principe? Alors là, il y a tout un procédé très important et difficile pour nous à bien comprendre ce que représente ce procédé de l'induction. Comment l'intelligence, notre intelligence humaine, ne peut saisir un principe que par l'induction. Vous voyez, ce point de vue-là, c'est un point de vue critique. Il faut que l'intelligence ait déjà découvert l'induction, qu'elle ait découvert un principe pour pouvoir dire ça et réfléchir que, en effet, tout principe est au-delà de l'expérience. Que le principe ne nous est pas donné immédiatement. Je n'ai pas l'expérience d'un principe. Tout ce qui est pour moi objet d'expérience ou d'une expérience externe ou d'une expérience interne, je peux le décrire. Tout ce qui est objet de description demeure relatif dans le conditionnement, demeure quelque chose que je saisis immédiatement. L'activité artistique demeure dans l'ordre de la description. L'artiste décrit. Comprenons bien, hein, je ne définis pas l'art par la description. Il exprime plus qu'il décrit. Mais on peut le décrire ensuite dans une interprétation. Toute interprétation est d'ordre descriptif. Toute herméneutique est d'ordre descriptive. L'herméneutique décrit, toujours. L'intelligence va plus loin que la description. Elle a un appétit naturel à dépasser l'aspect descriptif pour saisir quelque chose qui se donne à elle comme un absolu, comme un principe. Alors, seule l'intelligence, comme intelligence, saisit un principe. La raison, elle raisonne, et le raisonnement le plus simple, c'est toujours la description. C'est une tactique militaire de faire une espèce d'encerclement. Et la description encercle pour saisir la réalité. Platon dit que quand l'intelligence interroge, elle est comme un chien de chasse qui est en face d'un fourré et qui saisit que le gibier est là. Elle ne le voit pas, le chien de chasse ne le voit pas, mais il le sent, il le pressent, pressentir qu'il y a là quelque chose. C'est assez joli comme image, c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce que je la trouve assez belle. L'intelligence qui cherche ce pourquoi elle est faite, qui cherche la réalité qu'elle veut saisir. quelque chose de fondamental, de premier. Elle est faite pour cela. L'intelligence ne peut se reposer que lorsqu'elle saisit quelque chose d'absolu. Alors vous allez me dire, ça c'est un a priori que vous dites. L'intelligence, pourquoi vous dites que l'intelligence est faite pour l'absolu? Ça a été toute la grande recherche grecque. Hein. Alors, il disait que l'intelligence était faite pour le nécessaire. C'est la même chose. Hein. Le nécessaire et l'absolu, au point de vue de l'intelligence, c'est exactement la même chose. Parce que le nécessaire, c'est justement ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Donc, le nécessaire représente un principe. Un principe est nécessaire et nous découvrons le principe quand nous découvrons du nécessaire. Au-delà de quoi je ne peux pas aller. Tandis que tout ce qui est décrit est toujours relatif. L'intelligence cherche du nécessaire. Alors, qu'est-ce qui nous montre que l'intelligence cherche du nécessaire? Qu'est-ce qui nous permet de montrer que l'appétit de l'intelligence est fait pour le nécessaire? C'est la première chose, je crois, qu'on doit comprendre pour que cet appétit de l'intelligence ne soit pas posé a priori, mais que cet appétit de l'intelligence soit vraiment quelque chose que nous pouvons saisir immédiatement. L'intelligence est faite pour du nécessaire. Bien, pour les Grecs, cet appétit de l'intelligence pour le nécessaire est donné en premier lieu par l'appétit de définir. L'intelligence veut définir. En définissant, elle saisit du nécessaire. Et Aristote précise que le premier moment où l'on saisit du nécessaire, c'est lorsqu'on saisit l'universel. La saisie de l'universel, c'est l'intelligence qui veut dépasser le descriptif. L'universel ne se décrit pas. Décrivez animal. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous représenter animal. Or, toute description se fonde sur une représentation. Tandis que l'universel, il possède une signification. Ça me semble quelque chose de capital au point de vue critique. Le passage de la représentation à la signification. Ça, on peut tous saisir ça, parce que nos mots signifient quelque chose. Et la signification a un caractère universel. Et donc, parce qu'il a un caractère universel, il a un caractère nécessaire. Vous le comprenez ou vous ne le comprenez pas, ça n'a pas d'importance. Hein. Mais ça a quelque chose de nécessaire. Vous ne pouvez pas changer la signification de l'universel animal. Non, vous ne pouvez pas changer. Ça s'impose comme du nécessaire. Et vous voyez tout de suite, et c'est ça qui est très curieux, que ce nécessaire apparaît tout de suite selon cinq modalités les prédicables. Genre, différence spécifique, espèce, propre, accident. Ça, c'est capital au point de vue critique, de comprendre que l'universel se donne à nous tout de suite, selon cinq modalités. Vous comprenez que c'est très important, parce que qui dit universel dit quelque chose d'absolu, qui dit multi dit quelque chose de relatif. Ça ne colle plus du tout. Quand vous êtes dans le multi, vous n'êtes pas dans quelque chose de nécessaire. Or, l'universel se donne à moi tout de suite. Hein. Chacun d'entre nous, nous pouvons le découvrir, ça. Animal, raisonnable, homme. Je vais lui prendre l'homme, parce que là, vraiment, on a une espèce. Capable d'apprendre la grammaire et le latin. C'est propre de l'homme. Et, accident, il a des cheveux longs. Très accidentel. Parce qu'on sait qu'il peut très bien ne plus avoir de cheveux longs. Il a fait le deuil des cheveux longs. Alors, accident, accident. Il a un bras coupé. Accident. C'est un peu plus grave. Mais c'est accident. Et vous avez l'universel qui se passe de cette manière. C'est très intéressant, ça. Parce que l'intelligence s'arrête à l'universel. C'est le premier repos. Premier repos. Le pantareil, hein, tout coule d'Héraclite, le pantareil est dépassé par la découverte de l'universel. Il y a une chose qui ne coule pas, l'universel. Il est toujours le même. Depuis Aristote jusqu'à nous, et avant Aristote, puisque ce n'est pas lui qui l'a inventé, l'universel existe. C'est quand même très curieux. Même si vous êtes anarchique, vous êtes bien obligé d'accepter l'universel. Alors vous pouvez évidemment vous opposer à l'universel, faire une espèce d'anarchie contre le point de vue de l'universel. L'universel, ça n'existe pas. C'est très vrai, ça n'existe pas. C'est pour ça que vous pouvez être anarchique contre l'universel, parce que vous ne pouvez pas le détruire. Il n'existe pas comme une réalité. Il n'existe que dans votre pensée. Alors vous détruisez la raison en détruisant l'universel. Vous détruisez votre conditionnement propre de pensée en détruisant l'universel. C'est très intéressant qu'il est simple, parce qu'il oblige d'aller plus loin. On ne peut pas s'arrêter. Puisque j'ai un appétit de l'universel, et que je vois que l'universel se donne tout de suite dans les cinq, donc je vais aller plus loin. Je vais trouver un universel qui ne soit pas seulement un prédicable dans le multiple, un universel qui est plus. Alors, quel est l'universel qui est plus? Ah, je le découvre au niveau du principe. Un principe est universel. Mais c'est un type d'universel très particulier parce qu'il est principe. Et le principe, comme tel, ne se divise plus en cinq univers, en cinq modalités. Il se donne comme un absolu unique. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est ça qui fait comprendre l'appétit de l'intelligence. L'intelligence a un appétit du nécessaire. L'intelligence a un appétit de vérité. Et la vérité, j'aime mieux mettre d'abord l'univers, l'absolu. Vous voyez, parce que la vérité, c'est l'intelligence qui veut découvrir quelque chose de parfait dans lequel elle peut se reposer. C'est déjà une confrontation avec le réel. L'universel et l'absolu, ce n'est pas une confrontation avec le réel. C'est quelque chose que je saisis à partir de mon cheminement intellectuel. Ensuite, je saisis qu'en effet, l'intelligence est faite pour l'universel, pour saisir la vérité. Parce que je ne peux pas saisir la vérité s'il n'y a pas une saisie de l'universel. Et il n'y a pas de saisie de la vérité sans saisie du principe. On verra ça progressivement. Mais c'est très intéressant de comprendre que l'intelligence a un appétit du nécessaire. C'est la première chose à découvrir. Une fois que vous découvrez que l'intelligence a l'appétit du universel, vous voyez que du nécessaire, vous voyez qu'il y a un premier moment, il y a un second moment. Autrement dit, vous voyez tout de suite qu'il y a deux niveaux d'intelligibilité. L'universel, le principe. Et comprenez bien que c'est quand je saisis l'universel que je commence à comprendre que l'intelligence est capable de saisir quelque chose au-delà du sensible. Tandis que quand l'intelligence décrit, l'intelligence est au niveau du sensible et de la représentation. Tandis que là, elle est au niveau de la signification. Et c'est quand je saisis que l'intelligence est au niveau de la signification que je comprends que l'intelligence peut se séparer du sensible. La signification n'est pas d'ordre sensible. Elle est d'ordre de l'intelligence, intelligible. Il n'y a pas de signification sensible. C'est très très clair. Quelle est la signification de la chaleur? C'est que c'est chaud. C'est chaud, c'est tout. Il n'y a pas de signification de la chaleur quand vous touchez la chaleur. Il n'y a pas de signification. Il n'y a pas de signification au niveau des sens. Parce que la signification apparaît avec l'universel. Oui, c'est bête, ça. C'est très simple, on n'y pense jamais. Il faut tout simplement y penser. Parce qu'alors, c'est à partir de là que vous pouvez comprendre ce que représente l'induction. L'induction, c'est le mouvement de l'intelligence qui passe du sensible à l'intelligible. C'est ce passage épagogué. C'est une montée du sensible, du visible à l'invisible et à l'intelligible. C'est ce passage, c'est cette montée, l'épagogué. L'intelligence, ce cheminement. Vous voyez ? Quand on télescope ce cheminement, on dira intuition. L'intuition n'est pas une induction. Mais quand on est fatigué, on fait de l'induction une intuition. Ça, c'est très vrai. Et c'est constamment ça. Genre, ah oui, mais c'est une intuition. Non. C'est une induction. C'est pas la même chose. Il y a un mouvement dans l'induction. Dans l'intuition, il n'y a pas de mouvement. C'est une éclair. Vous saisissez comme l'éclair, tout simplement, un rapport. C'est ça que saisit l'intuition, saisit un rapport, une relation. On verra ça à propos de la relation. Ici, c'est un mouvement, on passe du sensible à l'intelligible. Vous voyez, la découverte de anima, voilà la première induction. L'induction la plus radicale, la plus naturelle qui soit. Vous avez vu des chats, vous aimez, vous avez vu des chats, vous avez vu des lions, vous avez vu un cheval. Et vous vous regardez, vous dites « animal ». Vous ne savez pas très bien comment ça s'est fait. Parce que vous l'avez appris. Vous avez appris ça. Vous avez appris le mot « animal ». Vous n'avez pas fait l'induction. Mais si vous êtes philosophe, vous commencez à faire l'induction. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez le faire maintenant. Vous n'avez pas encore fait l'induction. Vous avez appris le mot « animal ». Vous avez appris le mot « chat ». Est-ce qu'il y a une induction pour le chat? Oui, une certaine induction. Parce que vous voyez que toute une espèce d'animaux sont des chats. Puis on vous présentera un chat qui est très particulier, très spécial. Est-ce que c'est encore un chat? Il y a des frontières qui sont quelquefois pas toujours commodes à voir. C'est assez particulier. Alors, vous pouvez vous demander si c'est encore un chat. Vous voyez, là, vous commencez à réfléchir. La différence spécifique entre ce chat et là, est-ce que c'est un propre ou est-ce que ça touche? Et vous classez. Je voyais l'autre jour quelqu'un qui aime la philosophie et les mathématiques et qui fait une collection de papillons. Parce que paraît-il que dans le Valais, dans le petit Valais de la Suisse, il y a 300 espèces de papillons. Et il y en a 1000 la nuit. Extraordinaire, ce petit coin. Alors ça l'intéresse de saisir tous ces papillons. Je trouve ça très bien, c'est merveilleux de saisir ça. Surtout pour un matelot. C'est merveilleux. Oui. Alors, saisir toute la variété. Alors il en a déjà, je ne sais pas, il en a déjà au moins centaines, c'est beau du reste, toute la variété. Alors vous vous demandez, toujours un papillon, c'est un papillon. Du Valais. Vous voyez, ça ne change pas l'espèce, hein, que ce soit du Valais ou de France, mais ça met un petit lien de propre ou accidentel, je ne sais pas. Il faut se demander si c'est accidentel d'être un papillon du Valais ou un papillon de France. Et de France, d'ici, des papillons particuliers. Alors vous pourriez faire une collection de papillons particuliers de Saint-Lambert. C'est le papillon de Saint-Joseph, ce serait particulier. Alors, est-ce que c'est un accident ou une propriété? Posez-vous la question. Comme ça, vous arriverez à saisir ce que c'est que le propre, ce que c'est que l'accident. Quand c'est lié, parce que le papillon est lié nécessairement à la chimie. Et la chimie est liée à la plante. Une chenille, je suis très calé, une leçon particulière, dans la meilleure. J'ai lu ce matelot que j'aime beaucoup, c'est un des vieux étudiants que j'aime beaucoup, qui est merveilleux. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai vu que son sens philosophique demeurait. parce qu'après avoir fait sa licence de maths, il a fait sa licence de philo, il a fait sa licence de maths, et maintenant, collection de papillonneurs. Mais tout en enseignant, tu vois, c'est très bien. Et alors, là, c'est lié à la plante, c'est évident. Une chenille ne mange que telle plante. Elle crève si elle ne trouve pas cette plante. Pour lui mettre une autre plante dans... Je ne mange que cela. C'est la différence du gosier humain qui mange de la salade multiple et diverse en se demandant de temps en temps si c'est encore de la salade. Moi, je ne mange que de la salade. C'est merveilleux, ça. L'instinct déterminé à deux nous. Vous voyez ce que c'est? L'instinct déterminé à nous. Ce n'est pas l'appétit naturel seulement. C'est l'instinct déterminé. La chimie qui ne prend que cette forme. Alors évidemment, pas de papillon s'il n'y a pas de chenille, pas de plante s'il n'y a pas de papillon s'il n'y a pas telle plante, du moins pas de chenille s'il n'y a pas telle plante. Alors on voit très bien. Et cette plante, elle dépend de ce sol, elle dépend de tel endroit. Et alors là où la culture devient universelle, hein, il n'y a pas que la pastorale d'ensemble. Il y a la culture d'ensemble. Alors, là où la culture est une culture d'ensemble, ce qu'on fait aujourd'hui, on supprime tout. Pour que les chenilles disparaissent et les papillons disparaissent. Et les chercheurs de papillons disparaissent. Et on reste dans les mathématiques universelles. Vous voyez, c'est extraordinaire. Non, il n'y a plus ça. C'est curieux, mais alors faites les applications pour la pastorale, vous verrez, parce que c'est la même chose, parallèle, il n'y a plus d'induction, et l'intelligence ne cherche plus. Elle apprend des axiomes, mais elle ne cherche plus. La variété de l'expérience permet ça. Alors l'intelligence passe donc de l'expérience du singulier à la découverte de l'universel. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. On a appris les mots. Alors, essayez philosophiquement de redécouvrir ce petit cheminement qui est, j'allais dire, le patrimoine d'une culture. Le premier patrimoine d'une culture, c'est ça. C'est de passer du singulier à l'universel. Et on n'y pense même pas. C'est la première chose. Puis ensuite, second type d'induction. Cette induction très simple, c'est la naissance des mots. Vous voyez, nous y reviendrons ce soir. La naissance des mots, c'est très très intéressant. Parce que s'il n'y a pas d'universel, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de signification, puisque la signification est liée à l'universel. Alors les mots apparaissent à partir du moment. Parce que la description, on reste auprès du sensible. Alors, regarde comme c'est beau, oui. Toute la variété des papillons, c'est très beau. Toute la gamme des papillons, c'est très beau. Il n'y a pas de mots. Tous ces papillons. Mais c'est très beau. Alors, la sensibilité qui saisit tout ça. Et on voit très bien, l'artiste dit toujours, c'est ineffable, oui. Ce qui peut être dit, c'est l'universel. C'est un appauvrissement. Ce qui peut être dit, c'est l'universel. Et la sensation, ça a d'immenses conséquences hein, de comprendre ça. La sensation, elle ne se dit pas, elle se vit. Elle se goûte, elle se voit. Mais c'est la source à partir de laquelle l'universel va l'être. L'intelligible, donc, et l'universel va l'être. Donc, première induction, une induction naturelle qui présuppose, pour qu'elle naisse, c'est un fait, je constate que mon langage repose sur l'universel, que mon langage repose sur la signification, c'est un fait. Il y a donc un appétit de l'intelligence, un appétit naturel de l'intelligence, de passer du sensible à l'universel, de passer de quelque chose qui ne peut pas avoir de signification à la signification. Second moment d'induction, alors beaucoup plus net, le passage du sensible au second type d'universel, les principes. les principes propres, les causes. L'universel n'est pas cause. Ah, ça serait intéressant de savoir si l'universel est une cause. Est-ce que l'universel est une cause? À la manière de Descartes, oui. Pas à la manière d'Aristote. À la manière de Descartes, c'est une cause exemplaire. L'universel est une certaine cause exemplaire. Animal et cause exemplaire pour tous les petits animaux. Puisqu'il les contient. Le genre contient tous les individus. Alors, la cause exemplaire formalise et contient. C'est une mesure. Alors, l'universel est d'une certaine manière une mesure de tous les sensibles. Donc c'est une certaine causalité exemplaire. C'est pour ça que l'induction première aboutit à la cause exemplaire. Et puis les autres inductions aboutissent aux autres causalités. Donc il y a deux types d'induction. Il faut bien comprendre. Le second type d'induction qui aboutit au principe, alors là, est beaucoup plus net. Et puis vous auriez entre deux l'induction baconienne, les tests. Les tests, ça vient de Bacon, ça. C'est l'induction baconienne qui aboutit non plus au principe, mais aux lois. Donc, comprenez bien les trois aspects. L'universel, la loi, le principe propre. Pas de loi sans universel, pas de saisie de principe sans l'universel. C'est donc la cheville ouvrière, la condition sine qua non, c'est la saisie de l'universel. Et donc ce passage du sensible au premier intelligible qui est l'universel est capital. C'est, j'allais presque dire, c'est la loi fondamentale de la vie d'intelligence. Une intelligence qui refuse de saisir l'universel, c'est une intelligence qui, de fait, refuse un appétit fondamental à saisir ce pourquoi elle est faite. Nos sensations ne saisissent pas l'universel. Seule l'intelligence saisit l'universel. C'est le bien propre de l'intelligence. Mais c'est un bien terrible, hein, parce qu'il faut s'appauvrir pour saisir l'universel. Il faut quitter le domaine de l'art, du sensible, pour saisir l'universel. Vous voyez, c'est ça que Nietzsche, il faut bien comprendre, hein, l'opposition première de Nietzsche, rester dans le sensible, c'est pour ça qu'il veut l'art. Parce que l'universel, c'est un mensonge. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité immédiate. C'est l'intelligence qu'il fabrique. C'est très vrai. Je vous ai déjà dit, l'universel, c'est un être de raison. C'est l'intelligence qui fabrique l'universel. Alors, est-ce que c'est une fabrication conventionnelle ou une fabrication naturelle? Est-ce que c'est naturel, l'universel? Dans toutes les langues, vous trouvez ça. Plus ou moins. Parce qu'il y a des langues plus ou moins abstraites. Mais tout le temps. Parce que le mot présuppose l'universel. Le langage présuppose l'universel. Nous verrons ça cet après-midi sur le cours de théologie fondamentale. Nous reviendrons là-dessus. C'est pour ça que c'est si important. C'est quelque chose de capital de saisir ce passage du sensible, des sensations, à l'universel. L'universel permet la loi, et au-delà de la loi, il y a la saisie des principes propres. Donc, trois niveaux d'intelligibilité, il faut bien comprendre. Hein. Trois niveaux d'intelligibilité. L'intelligibilité de l'universel, et toute la logique repose sur l'universel. Alors, comprenons l'induction du principe propre. L'induction du principe propre est beaucoup plus facile à saisir que cette induction fondamentale qui est perdue dans la nuée des temps. Quand l'homme a fait une première induction pour saisir l'universel. Je dis, nous avons appris les mots d'un langage. Puis après, nous revenons à la réalité. Vous voyez, c'est très intéressant ça. De comprendre que nous avons appris les mots. Vous voyez, quand un gosse regarde pour la première fois un train qui arrive, hein, il voit un train qui arrive, il demande à sa mère qu'est-ce que c'est. Sa mère dit locomotive. Vous comprenez que c'est lumineux. Locomotive, le mot. Hein, mais vous dites le mot. Puis alors le gosse continue, mais qu'est-ce que c'est qu'une locomotive? Mais c'est ça. Vous voyez la manière dont on rend les gens abrutis. Parce qu'ils sont quand même intelligents, ils posent des questions et on ne leur répond pas. Locomotive, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Vous voyez le type d'induction. C'est merveilleux, ça, c'est extraordinaire. Alors vous tournez tout le temps. Mais les mots n'expliquent pas la réalité. Les mots, c'est la monnaie de la réalité. C'est un substitut. Exactement comme la monnaie permet les échanges, eh bien, il y a un lien entre la monnaie et les mots. Vous voyez ? Et l'intelligence, c'est pour que nous puissions aller plus vite que nous prenons des mots. Et par un moment, nous signifions quelque chose de la réalité, nous montrons où est la réalité, grâce aux mots. Alors, il y a cette induction fondamentale et première qui est perdue dans la nuit des temps. Et pour chacun d'entre nous, nous ne savons pas très bien à quel moment vous avez compris la signification d'un mot. À quel moment vous avez fait l'induction, ordinairement, vous voyez ? Locomotive. Qu'est-ce que c'est que ça, locomotive ? Vous avez reçu le mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Du mot, vous revenez à la réalité. Vous voyez la démarche de Descartes ? De l'idée, on revient à la réalité. Pourquoi ? Parce que nous vivons un monde, nous sommes nés dans un monde qui a une culture avant que nous ayons pensé. Donc nous sommes enveloppés par la culture, nous sommes enveloppés de mots et nous n'avons pas encore l'expérience. Alors du mot, nous allons à l'expérience. Nous avons appris des mots, nous avons appris notre leçon. Alors, en effet, si je regarde comment j'arrive du mot à la réalité, je dirais, les idées me conduisent à la réalité. Et je me demande si ces idées représentent quelque chose de la réalité, signifient quelque chose de la réalité. Voilà, locomotive, c'est ça. Donc, l'idée mesure la réalité. Et si le gosse est suffisamment cultivé, ça lui suffira. S'il est curieux, il essaiera de voir ce qu'il y a dans le ventre de la locomotive. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus le mot qui lui donne la signification de la locomotive, c'est l'expérience qu'il a faite du moteur et de l'intérieur de la locomotive. Et alors, après, je sais ce que c'est. J'ai dévissé tous les écrous. Je sais ce que c'est. Et je les ai revissés. Je connais l'histoire. Je connais ce que c'est. Oui, mais il faut l'expérience, il faut la curiosité d'expérience. Autrement, il restera la locomotive. Moi qui n'ai pas dévissé la locomotive, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oui, j'ai regardé. On regarde dedans un peu, mais c'est à peu près, mais on ne sait pas vraiment. Tant que vous n'avez pas l'expérience, c'est la même chose pour un moteur d'auto, pour un moteur d'avion. Ça. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas, on ne sait pas. Tandis que celui qui connaît, voilà, moi j'ai moteur d'auto. Telle série, telle date, telle marque. Vous ne connaissez rien du tout. Vous avez étiqueté, vous avez mis dans la série. Vous ne connaissez rien du tout. Parce que vous avez le mot. Vous voyez la cérébralisation. Le mot cérébralise. Et le mot fait que je deviens cartésien. Parce que c'est le mot qui est premier avant la réalité. Alors que réellement, je devrais connaître la réalité avant de la nommer. Si j'étais parfaitement honnête, je devrais connaître la réalité avant de la nommer. Je ne devrais pas avoir la permission de nommer sans connaître la réalité. Mais on est tous un peu, vous voyez, on est tous des arrivistes au point de vue de la connaissance. Hein. Tous des arrivistes, il y en a d'autres qui ont peiné pour nous et nous nous servons de cela. Alors ils ont peiné pour nous et nous revenons tout simplement. C'est ça que fait comprendre la philosophie. Et c'est ça que Socrate a compris. Quand Socrate envoyait quelqu'un qui employait des mots extraordinaires, qu'est-ce que ça veut dire ? L'ironie de Socrate, qu'est-ce que ça veut dire ? L'ironie de Socrate, c'est revenir à cette induction première. C'est ça l'ironie de Socrate, revenir à cette induction première. C'est très curieux, ça, et c'est très significatif de voir combien les gens emploient des mots sans savoir ce qu'ils veulent. C'est très, employer l'ironie de Socrate, c'est très dangereux parce que ça vous fait faire des ennemis, mais c'est très important pour nous. C'est très important quand vous entendez un conférencier faire un feu d'artifice merveilleux. Et les Français font ça admirablement. Bon, alors un feu d'artifice de mots, je me souviens, c'était un jeune vedette de Paris venant faire une conférence à Fribourg. Je le connaissais un peu. Et sa conférence, c'était très significatif. Tous les mots à la mode y étaient. Pendant la conférence, je me suis amusé, parce qu'au début, ça m'a énervé profondément. Après, je me suis dit, non, amusons-nous. Écrivons tous les mots qu'il emploie. Le nombre de fois. Et là, il emploie des tas de mots, mais des mots transcendants, dialectiques, tous les mots, c'était visible. C'est une conférence littéraire, hein. C'est pas une conférence philosophique. Alors après, normalement, quand il y avait des Français qui venaient à Fribourg, on rassemblait les Français pour recevoir le conférencier. J'étais de mauvaise humeur, je voulais pas venir. Puis on m'a forcé d'y aller. J'y étais, j'ai dit, je sais pas ce que je vais dire. Vous savez, ça, je suis vraiment de très mauvaise humeur au plan philosophique. Alors on dit, oh, ça fait rien, ça sera très bien comme ça. Alors, quand on m'a demandé ce que je pensais de la conférence, je lui ai simplement dit, écoutez, j'aimerais savoir si les mots que vous avez employés, vous en savez la signification. Alors il a blémi. Et je lui ai demandé successivement les 10 mots qu'il avait employés le plus. Tous les gros mots philosophiques qu'il avait employés, et n'a pas su dire la signification d'aucun. Aucun. Alors j'ai dit, ça c'est pas bien. Vous avez le droit de faire ça pour un examen, mais pas pour une conférence. Pour un examen, vous avez parfaitement le droit. Vous avez le droit de rouler le professeur autant que vous voulez. Le professeur n'a qu'à être intelligent. Vous avez le droit. C'est une douane, un examen. C'est une douane. Alors, on passe tous les produits qu'on veut. Alors, vous avez le droit de rouler le professeur autant que vous voulez. Mais pas pour une conférence. Parce qu'une conférence, vous parlez avec autorité. Si vous parlez avec autorité, vous devez savoir la signification des mots que vous employez. C'est l'honnêteté. Tremblant, vous employez une monnaie dont vous ne savez pas le prix. Est-ce que vous avez le droit de faire ça ? Verser tous les fonds de sac, tous les fonds de poche, je ne sais pas ce que ça vaut, tant pis, recevez ça, vous pensez. C'est exactement ça, hein. C'est assommer son public avec des mots dont on ne comprend pas la signification, on l'assomme complètement. Et puis après, on s'en va. Tout le monde applaudit, sans rien avoir compris. C'est ça la falsification des mots, comme la falsification de la monnaie, vous voyez ? Falsifier la monnaie, c'est terrible, hein. Falsifier les mots, c'est encore bien plus terrible. Alors, c'est cette petite induction, vous voyez, je vous dis ça, c'est parce que c'est très important, ça. C'est le fond de la philosophie. C'est le fond de la philosophie Socrate. Vous n'avez pas le droit d'employer des mots dont vous ne comprenez pas la signification. Vous n'avez pas le droit. C'est pas honnête. Alors, vous n'arrivez pas tout de suite à comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit, la première chose qu'on fait quand on écoute un cours de philosophie, c'est de prendre les mots dont on ne connaît pas la signification. Et il y a un parrainage pour vous aider à comprendre la signification de ces mots. Et si le parrain ne comprend pas la signification de ces mots, il recourt à plus haut, et s'il ne sait pas, il recourt à plus haut, n'est-ce pas ? Alors, il y a des étages successifs pour découvrir la signification des mots. Parce que c'est la première chose qu'on doit faire. On a une monnaie particulière. Une monnaie particulière, une monnaie philosophique particulière. On doit connaître les mots et la signification des mots. Donc, première induction, celle-là, elle est capitale, celle-là. Et on doit tout le temps se la rappeler. L'ironie de Socrate. Tu emploies un mot, puisque tu emploies ce mot, qu'est-ce que ça veut dire ? Puis l'autre ne sait pas. Tu n'as pas le droit. Ça serait beaucoup. La signification. Mais c'est vrai, c'est très important ça. On doit pouvoir toujours arrêter quelqu'un quand il parle dans son discours. On doit pouvoir toujours. Tu dis ça, qu'est-ce que ça veut dire ? On doit le faire pas à la manière socratique, avec un peu d'ironie. On doit le faire, parce que la manière de Socrate, ça peut être terrible. Hein. Socrate pouvait se permettre ça. Il ne faut pas trop, nous. Parce que ça, c'est de l'ironie qui est peut-être très, très méchante, quelquefois. Mais on peut le faire par honnêteté. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, la première induction, elle est soutenue par l'appétit de l'intelligence. Il n'y a pas d'interrogation. C'est l'appétit de l'intelligence. On passe du sensible à l'universel. L'induction, au contraire, au niveau des principes propres, c'est celle qui nous permet d'entrer dans une connaissance scientifique. Pas de connaissance scientifique sans la saisie de principes propres, sans la saisie de causes. Au niveau science tel que l'emploie Aristote. Parce qu'aujourd'hui, le mot science s'est étendu beaucoup et ce n'est plus les principes propres qu'on saisit, on essaie de saisir des lois. Mais la loi, c'est l'ersatz d'un principe, hein, au point de vue de la vie de l'intelligence. La loi est quelque chose de beaucoup moins fondamental que le principe. Mais c'est quand même intéressant. La loi, c'est plus que l'universel. Hein. La loi, c'est deux universaux qui se joignent. C'est un rapport constant dans le nécessaire. Puisqu'au fond, c'est deux termes universels qu'on joint entre eux et qu'on lie entre eux, en disant qu'il y a une constante. Il y a un rapport constant que je constate. Si B existe, il faut que A apparaisse. Puisqu'il y a un rapport constant entre A et B, donc il y a une loi que je peux établir. Parce que j'établis ce rapport constant. Tandis que le principe, c'est saisir ce qu'est fondamental et premier, au-delà de quoi je ne peux pas aller. Alors voyez, l'universel, c'est déjà un certain principe. Au-delà de quoi je ne peux pas aller. Mais le véritable principe, c'est saisi beaucoup plus profondément. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'universel et le principe? C'est que le principe va exprimer quelque chose de premier dans l'ordre du devenir, dans l'ordre de l'être et dans l'ordre de l'intelligibilité. L'universel n'exprime pas toujours ce qu'est le premier, puisqu'il y a cinq modalités d'universel. Donc, c'est encore relatif. Ce n'est pas absolument premier. Je peux discuter entre les cinq. Et les cinq sont en relation l'un par rapport à l'autre. Donc, ce n'est pas absolument premier. Tandis que quand je saisis un principe d'intelligibilité, c'est premier. L'axiome de non-contradiction est un principe au niveau de l'intelligibilité. Ce n'est pas l'universel. C'est plus que l'universel. C'est quelque chose de plus. C'est un au-delà de l'universel. C'est l'universel foncier et premier. C'est le principe de non-contradiction. Quand je saisis un principe au niveau du devenir, la nature, je saisis un principe dans l'ordre du devenir. Ou quand je saisis quelque chose de premier dans l'ordre de l'être, je saisis quelque chose de premier dans l'ordre de l'être. Pour saisir le principe, il faut toujours l'interrogation. Et c'est ce que nous voyons ici, quand nous sommes en présence de cette première induction de philosophie première. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Mon intelligence, si elle n'était pas poussée par l'interrogation, n'avancerait pas. Parce qu'elle est paresseuse. Alors, j'ai besoin que mon intelligence soit éveillée par l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Si je ne me posais pas la question « qu'est-ce l'être ?», je n'avancerais pas. Mais là, en interrogeant, je suis obligé, revenant sur l'expérience, de saisir dans l'expérience ce qu'il y a de fondamental. Parce que quand je me pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je veux saisir la détermination première de ce qui est. Donc la détermination première de l'être. Et c'est cette détermination première de l'être que je veux saisir. Or, les prédicaments me donnent les 10 déterminations de l'être. Première chose, est-ce que parmi ces 10 prédicaments, y a-t-il une détermination première? Je dis non. Aucun prédicament ne peut répondre à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Ça, c'est très, très important de le comprendre. Hein. Aucun prédicament ne peut répondre à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Pourquoi ? Parce que, si vous regardez chacun des prédicaments, vous voyez que chacun des prédicaments est relatif à un sujet. S'il est relatif à un sujet et que le sujet existe, il ne peut pas être premier. Ça s'est fait d'un seul coup. Tout ce qui est relatif à quelque chose d'autre n'est pas premier. Il est second. Ce qui est second suit et est relatif. Ce qui est premier est indépendant et est simple. Et donc ne peut pas être relatif. Donc, à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je peux dire que aucun des prédicaments ne me dit ce qu'est l'être. Les prédicaments me disent peut-être le légétal de l'être, c'est-à-dire ce qui est dit de l'être, mais pas ce qu'est l'être. Ça, c'est aussi très important de bien saisir. Hein. Les dix prédicaments, le légétal. Ce qui est dit, ce qui est dit de l'être. Ce qui est dit de l'être n'est pas l'être. C'est autre chose. Ce qui est dit de l'être n'est pas l'être. Ce qui est dit de l'être, ce sont les diverses déterminations que j'ai constatées. Tout ça, c'est de l'être, mais ce n'est pas l'être. Donc, quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, je suis obligé de dépasser tout de suite